Bonjour Ganga Lakshmi.
Bonjour Marino. Alors aujourd'hui, je vais encore continuer, parce que c'est très intéressant le développement qu'a fait Satprem dans l'aventure de la conscience concernant Sri Aurobindo. Et c'est Sri Aurobindo qui était dans sa main et dans sa conscience supérieure. Pendant que Mère était là, c'est ce que Mère a dit dans l'agenda. Ça, c'est très important. C'est pas lui vraiment qui a écrit, mais il a été totalement, du début à la fin, guidé par Sri Aurobindo.
Satprem.
Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais lire le chapitre 17. C'est la fin de l'aventure de la conscience. C'est vraiment très, très intéressant. C'est la transformation. Et il explique quelque chose qui est très, très intéressant. Voilà. Alors, je vais vous lire ça. Le laboratoire, disait Sri Aurobindo, on comprendra mieux si nous disons que chaque individu représente un certain ensemble de vibrations et que chacun a accès à une zone particulière du subconscient. Ces mondes, apparemment, d'une extraordinaire diversité, sont en fait chacun constitués de quelques vibrations typiques. La multitude des formes ou des déformations plutôt, des êtres, des lieux, des événements dans la zone donnée ne fait que découvrir une vibration identique dès que l'on devient un peu conscient et que l'on commence à descendre dans le subconscient sans être abruti pour travailler, on s'aperçoit avec étonnement, presque amusement, que les personnes physiques que nous connaissons, qui sont assez différentes extérieurement, lorsqu'on les rencontre sur le plan mental ou sur le plan vital, sont presque fondues et interverties dans le subconscient. On se demande si c'est bien un tel ou un tel. Il y a ainsi des types de gens pourtant extérieurement séparés par des religions différentes, des cultures différentes, des étages sociaux différents et même des morales différentes, qui sont tous pareils dans le subconscient. Comme si l'on voyait l'un à travers l'autre, dit Mère. C'est une sorte de superposition curieuse. Et si nous ne voyons que deux ou trois individus, l'un à travers l'autre, parce que notre vision est limitée à un cercle restreint, mais si nous avons la vision totale, nous verrions que derrière eux, il y en a des milliers et des milliers. Et ils sont agglutinés dans des zones bien déterminées. Il y a des êtres que l'on rencontre jamais ensemble dans le subconscient et qui pourtant sont très proches dans la vie extérieure et inversement. Alors apparaît clairement le mécanisme du travail terrestre. Chacun, dit la mère, est un instrument pour contrôler un certain nombre de vibrations qui représentent son champ de travail particulier. Chacun, par ses qualités et ses défauts, a un accès à une zone de la conscience terrestre qui représente sa part de transformation collective. Et l'on comprend pourquoi la transformation ne peut pas s'opérer par un seul individu. Comme si grand, aussi grand soit-il, si vaste soit son organisation intérieure et sa colonisation mentale, vitale et subconsciente, il ne représente qu'un ensemble de vibrations. Il peut tout au plus transformer le type de vibration qu'il représente, et encore ce n'est pas sûr, car finalement tout se tient. Et l'on comprend aussi que la transformation ne peut pas se faire avec des petits seins. Ce n'est pas avec de la sainteté que le vaccin se produit, mais avec la part de maladie humaine que l'on a le courage d'assumer. Dans les cas, la maladie est là. Mais dans un cas, on ferme les yeux et on s'extasie dans l'autre. On retrousse ses manches et on compte les bouillons de culture. Un ancien disciple s'étant vivement plaint du mélange à l'ashram et des individus impossibles qui s'y trouvaient, Sri Aurobindo observa, il est nécessaire, ou plutôt inévitable, que dans un ashram qui est un laboratoire du yoga, problème de la transformation, du yoga supramental, l'humanité soit diversement représentée. Le problème de la transformation doit forcément comprendre toutes sortes d'éléments favorables et défavorables. En fait, le même homme est un mélange des deux. Et s'il n'y avait que des gens vertueux et cultivés à faire le yoga, des hommes qui n'ont pas trop de difficultés vitales en eux, il se pourrait bien que l'entreprise échoue, parce que la difficulté de l'élément vital dans la nature terrestre n'aura pas été affrontée et surmontée. Un autre disciple, en proie à peut-être quelques remords, avait écrit à Sri Aurobindo : « Quel fichu disciple nous sommes ! Vous auriez dû choisir ou appeler une meilleure substance humaine, peut-être quelqu'un comme Z. » Et Sri Aurobindo répond : parmi les disciples, je suis d'accord. Oui, mais est-ce que la substance meilleure, à supposer qu'elle existe, serait typique de l'humanité ? Manipuler quelques types exceptionnels ne résoudrait en rien le problème. Et consentirait-il à suivre mon chemin ? C'est une autre question. Et si on les mettait à l'épreuve, est-ce que l'humanité commune ne se révélerait pas soudain en dessous ? C'est encore une autre question. Je n'ai pas besoin de centaines de milliers de disciples. Ce serait assez si je peux trouver 100 hommes complets, vides du petit égoïsme qui seraient les instruments du divin. Sri Aurobindo. Pratiquement, le travail se fait à travers chacune de nos difficultés psychologiques, symboliques de la même difficulté à travers le monde. Si l'on touche une vibration donnée dans un individu, c'est la même vibration qui est touchée dans le monde entier. Chacun de vous, dit la mère, représente une des difficultés qu'il faut vaincre pour la transformation. Et cela fait beaucoup de difficultés. C'est même plus qu'une difficulté. Je crois vous avoir dit autrefois que chacun représente une impossibilité à résoudre. Et quand toutes ces impossibilités seront résolues, l'œuvre sera accomplie. Chaque individu, nous le savons, a une ombre qu'il talonne et semble contredire le but de sa vie. C'est la vibration particulière qui doit transformer son champ de travail, son point impossible. C'est à la fois le défi de sa vie et la victoire de sa vie. C'est sa part de progrès dans l'évolution collective de la Terre. Mais un phénomène particulier se produit dans notre laboratoire. Dans la vie ordinaire ou dans un yoga individuel, cette ombre est plus ou moins latente ou plus ou moins gênante. et elle finit par se dissoudre, ou plutôt par s'enfoncer dans une oubliette. Dès que l'on se met à un yoga terrestre, on s'aperçoit qu'elle ne s'enfonce pas du tout. Elle sort et ressort avec une virulence infatigable, comme si la bataille n'était jamais gagnée. Comme si en vérité, on faisait la bataille sur ce point vibratoire particulier pour la Terre entière. Il semblerait que le chercheur soit devenu le lieu d'une bataille spéciale aiguë, symbolique de la même bataille, plus ou moins larvée sur le même point d'ombre dans le reste des individus humains. Vous ne faites plus votre yoga pour vous seul. Vous faites le yoga pour tout le monde, sans le vouloir, automatiquement. Shobindo. Et le chercheur vérifie in vivo le principe de l'unité substantielle du monde. Si l'on se mêle de redresser une seule vibration en soi, ce sont des myriades de petites vibrations frères et sœurs qui résistent à travers le monde. C'est ce que Sri Aurobindo appelle un yoga pour la conscience terrestre. Sri Aurobindo décrit, parce qu'il accepte la vie, le chercheur du yoga intégral doit porter non seulement son propre fardeau, mais en même temps une grande partie du fardeau du monde qui vient s'ajouter à sa charge déjà suffisamment lourde. Par suite, son yoga, bien plus que les autres, ressemble à une bataille. Ce n'est pas seulement une bataille individuelle, c'est une guerre collective livrée sur un pays immense. Il ne suffit pas qu'il considère en lui-même les forces égoïstes du mensonge et du désordre. Il faut qu'il les vainque comme les représentants des mêmes forces adverses, inépuisables dans le monde. Ce caractère représentatif leur donne une capacité de résistance bien plus obstinée, un droit de récurrence presque sans fin. Souvent donc, le chercheur s'apercevra que même après avoir gagné avec persistance sa bataille personnelle, il devra la gagner encore et encore dans une guerre qui semble interminable, parce que son existence intérieure est déjà si élargie que non seulement elle contient son propre être avec ses expériences et ses besoins bien définis, mais qu'elle est solidaire aussi de l'être et des autres, car en lui-même il porte l'univers. C'est ce que Sri Aurobindo appelle aussi la descente. C'est la caractéristique de son yoga, nous l'avons dit. S'il a jamais été question de descendre dans tous les autres yogas, ce n'est pas un incident sur le chemin ou un résultat de l'ascension. Pour eux, l'ascension est le vrai but. Ici, l'ascension. Dans le yoga intégral, mais c'est la première étape, mais ce n'est aussi qu'un moyen de la descente. C'est la descente de la conscience nouvelle, atteinte par l'ascension, qui est le saut véritable de la discipline. Ici, le but est l'accomplissement divin de la vie. Et quand Sri Aurobindo dit descente, comprenons bien, il ne s'agit pas d'une pointe en haut suivie d'une pointe en bas. Il n'entend pas que l'on aille faire un tour de corvée en bas pour nettoyer un peu. Il entend que le bas cesse d'être bas. Par exemple, pour être prosaïque, et Dieu sait que la transformation est prosaïque, On peut faire des courses au bazar au milieu d'une humanité assez opaque et décomposante, ou se promener la nuit dans certaines régions malfaisantes du subconscient, et le faire avec la même intensité de conscience, de lumière et de paix, que quand on est assis tout seul, les yeux clos, dans sa chambre, dans une méditation profonde. C'est cela, la descente. Il n'y a plus de différence entre le haut et le bas. Ils sont pareillement lumineux et paisibles. Et c'est comme cela que la transformation terrestre s'opère. L'unité substantielle du monde joue dans les deux sens. S'il est vrai qu'on ne peut pas toucher une ombre sans toucher toutes les ombres du monde, on ne peut pas inversement toucher une seule lumière sans modifier toutes les ombres autour. Toutes les vibrations sont contagieuses, les bonnes aussi. Chaque victoire remportée est une victoire pour tous. Mais c'est le contraire qui serait surprenant. C'est tout le même être, s'écriait Mère. Il n'y a qu'une conscience, qu'une substance, qu'une force, qu'un corps au monde. Et c'est pourquoi Sri Aurobindo pouvait dire « Si le supramental descend dans notre matière, celle de Sri Aurobindo et de Mère, c'est qu'il sera descendu dans la matière et donc qu'il peut se manifester en d'autres aussi. » Alors, je vais terminer. Le yoga est un processus d'évolution concentré et la progression est géométrique. Le premier mouvement de la force évolutive dans la matière s'étend obscurément sur des âges. Le mouvement de la vie progresse lentement, mais déjà à un rythme plus rapide. Il se concentre en millénaires. Le mental peut comprimer encore davantage la lenteur nonchalante du temps et faire de grandes enjambées en quelques siècles. Mais quand l'esprit conscient intervient, une rapidité évolutive suprêmement concentrée devient possible. Nous en sommes là. Les soubresauts du monde actuel sont sans doute le signe que la pression descend s'accélère et que nous approchons d'une vraie solution. Il se peut qu'une fois commencée, l'entreprise supramentale n'avance pas rapidement. Il se peut qu'elle prenne de longs siècles d'efforts avant d'arriver à naître avec quelque permanence. Mais ce n'est pas tout à fait inévitable. Les changements de ce genre dans la nature semblent avoir pour principe une longue et obscure pénétration, suivie d'un rassemblement rapide et d'une précipitation des éléments dans une nouvelle naissance, une conversion brusque, une transformation qui fait figure de miracle pour sa lumineuse instantanéité. Une fois le premier changement décisif effectué, il est certain aussi que l'humanité tout entière ne sera pas capable de s'élever à ce niveau. Il ne peut manquer de se produire une division entre ceux qui sont capables de vivre au niveau spirituel et ceux qui sont seulement capables de vivre dans la lumière, qui descend au niveau mental. Et en dessous aussi, il se pourrait qu'il reste une grande masse influencée d'en haut, mais pas encore prête pour la lumière. Mais ce serait déjà une transformation, un commencement qui dépasserait de beaucoup tout ce que l'on a réalisé jusqu'à présent. cette hiérarchie n'entraînerait pas, comme dans une existence vitale actuelle, une domination égoïste, du moins développée par le plus développé. Les aînés de la race, au contraire, guideraient leurs frères plus jeunes et travailleraient sans cesse à les élever à des niveaux spirituels plus hauts encore et vers des horizons plus vastes. Et pour les guides aussi, l'ascension au premier niveau spirituel ne serait pas la fin de la marche divine. Ce ne serait pas un sommet qui ne laisse plus rien à accomplir sur la terre. Il y a d'autres niveaux au sein du monde supramental, encore plus élevés. Ainsi que le savaient les anciens poètes védiques qui parlait de la vie spirituelle comme d'une ascension constante. Au toit, au sans-pouvoir, les prêtres du mot t'escaladent comme une échelle, tandis qu'on monte de cime en cime, apparaît tout ce qui reste à faire. Rig Veda 1, 10, 1. Sri Aurobindo. Je dépose cette lecture au pied de Sri Aurobindo Mère. Merci Irène.
Merci Ganga Lakshmi. Merci.